La maison des absents de Raymonde Ferrandi. Je me souviens du premier jour. J'étais assise contre la verdure délicieuse du jardin qui me faisait signe par la fenêtre depuis en bas. Une voix graillonnait à la radio. Cuisiner riche avec Astra. Tout autour, au milieu d'odeurs amères, mon père et son ami Serge, un aristocrate russe reconverti dans la peinture en bâtiment, faisaient naître des murs blancs qui allaient recevoir notre nouvelle vie. Je n'étais encore qu'en visite, tandis que mes parents dormaient déjà dans le nouvel appartement. Nous avions trouvé refuge, ma grand-mère et moi, dans un petit hôtel qui portait un nom de princesse, Margaret, malgré sa modicité. En vacances de famille, nous partagions dans la bonne humeur les panis encore frétillants et les gnocchis que ma grand-mère achetait tout près pour les réchauffer. Enfin, je découvrais les spécialités niçoises, reléguées jusqu'alors dans la méfiance dévolue aux productions de l'indigénat. Ma grand-mère, tel pharaon, décrétait le lever du jour. Je l'entendais talonner dans le couloir qui conduit à la porte d'entrée, avec ses pantoufles de paysanne se hâtant qu'à un cas vers le premier journal. Venait ensuite le pas pesant de mon père, aboutissant au raclement de la chaise en bois blanc sur le carrelage de la cuisine. Enfin, c'était le martèlement solide et tendre de ma mère, exclamation rire. Je pouvais à présent me lever, l'atmosphère était pacifiée, nous formions à nouveau une famille dans laquelle j'avais ma place. Il y avait les fêtes, le jour de Noël revenant chaque année à l'identique comme un pont d'éternité au-dessus des aléas de la vie. Ma sœur Paulette descendait de Paris avec ses bagages, la frénésie et le sérieux de la capitale, avec mille anecdotes sur ses collègues, voisins, amis qui prenaient avec elle des cours de chant. Là-bas, les gens existaient. Ils habitaient le pays des livres et des nouvelles sur grand écran, là où se faisait l'histoire, tandis que nous-mêmes vivions dans un décor de cartes postales au milieu de cette nature ignorée des manuels scolaires et des faits divers rapportés par le journal. Il y avait les sapins devant la gare du Sud avec l'odeur vive de chats amoureux au milieu desquels je m'interrogeais. Est-on sur terre pour apprendre sans fin, comme j'avais commencé à le faire au lycée, ou pour, comme ce matin, jouir du soleil d'hiver, de la bonté soudaine et absurde des gens? Nous allions toujours chez les mêmes commerçants nous fournir en chocolat, dont les inimitables millefeuilles miniatures piquetées de noisettes. Petit four salé, quiche, pizza, pâté en fermant une minuscule saucisse, et sucré, croissant au pignon, pâte d'amande fourrée d'une cerise et enrobée de feuilles d'amande, fruits confits sertis d'une pâte crénelée, aligné comme un festin de Gulliver au pays des Lilliputiens. L'affrontement n'était pas loin quand l'un ou l'autre aurait voulu introduire une variante dans le protocole immuable. Le dimanche était le jour des pâtes et du poulet assorti d'une entrée de charcuterie et d'un gâteau. Comme Noël était un super dimanche, il convenait de prévoir un menu encore plus indigeste. Néanmoins, ces jours étaient le lieu d'une trêve spontanée, comme pour laisser une chance à l'éclosion d'une nouvelle famille entre nous. Au lieu de saisir chaque occasion d'enfoncer le clou des rancœurs habituelles, chacun s'efforçait de faire plaisir, d'être au mieux de lui-même, Pourquoi, diantre, n'était-ce possible qu'un jour par an, à la rigueur deux avec le 1er janvier, qui apparaissait comme un réchauffé, parfois au sens propre des plats étant gardés à la fin d'une fête pour la suivante, comme un réchauffé de Noël. Janvier. Nous sommes là, assises, dans la salle à manger qui encadre depuis des lustres la vie de famille. Ces trois filles enfin réunies comme elles l'avaient tant de fois réclamé. Paulette, Gisèle et moi. Autour de nous, sa présence émane de chaque objet. Les napperons sous les vases, les santons sur la cheminée aux cariatides, hiératique gardienne du foyer, son fauteuil qui attend comme si elle était juste sortie de la pièce. Mais il n'y a plus les mots croisés et les lunettes négligemment posées à côté. Depuis plusieurs années déjà, une partie d'elle-même avait quitté la maison pour la résidence Azurella. Il y a eu la cérémonie ce matin à l'église Saint-Étienne où j'ai reconnu les peintures et vitraux de ma communion. Il y a eu les chants, l'hommage en forme de trémolo du prêtre. Et je l'imaginais secoué de fou rire comme autrefois en pareille circonstance. Quand on a agité autour du cercueil l'encensoir environné de vapeur, j'ai bien cru qu'elle allait se dresser, rabattant le couvercle, pour protester qu'on veuille bien cesser de l'enfumer avec des cendres qui la faisaient éternuer et lui permettre de passer sa mort en silence. Nous parlons de l'après. Je rappelle le serment que je lui ai fait. Garder la salle à manger, sculpté sur mesure par un artisan dans l'une des garnisons de mon père, et la grande chambre des parents en joli bois clair, acheté pour ce nouvel appartement plus spacieux que celui du boulevard Gambetta. Je ne peux croire que cela soit arrivé. Et que cette maison, ancienne comme le monde, qui rassemblait dans son antre toutes les vies antérieures de la famille, bientôt n'existera plus. S'en sera fini des repères ontologiques, la terrasse, la grande chambre. Resteront, il est vrai, le grand buffet, les murs blonds et incurvés de la grande chambre, et aussi peut-être la table de la cuisine, l'armoire blanche de la salle de bain, navire sans port, tant que je ne leur aurai pas retrouvé une place dans un autre lieu d'où ils puissent à nouveau m'emmener vers le passé tout en revenant s'arrimer au présent. Il y avait les repas tous ensemble entre les buffets aux motifs d'épis plongeant leurs racines très loin dans l'appartement de Constantine et au-delà dans ces temps lumineux des photos où ma mère et même ma grand-mère étaient de grandes femmes très belles et mon père un jeune officier, mes sœurs des adolescentes chamailleuses. Tout ce monde-là vivait sans moi. Mais les uns et les autres avaient vécu ces histoires qu'on racontait à table, mythiques épopées familiales dont ils étaient les dieux fondateurs. Rien de ce qui m'arrivait ne semblait avoir le même intérêt. Mes amis, ma fille, ont parfois ri de ce que je leur racontais. Mes parents, jamais. Entre nous, il y avait la Méditerranée, puis mon départ pour des lieux et pour une vie qui ne pouvait trouver place dans leur univers. Fréquenter des fous, des immigrés, travailler en Afrique. Admettons pour l'Afrique où je semblais rééditer l'aventure coloniale. On a regardé les photos, on m'a écouté, mais rien ne valait le garde forestier à Batna, qui élevait conjointement une chèvre et une gazelle, celle-ci s'échappant de concert à travers la ville. Ou bien la tante Rose, son chat et sa poule apprivoisée, côte à côte, derrière le carreau à regarder les passants. À la rigueur, on évoquait la petite fille que j'étais, avec mes formes rebondies et ma mèche auburn. J'avais fait je ne sais quelle bêtise, les obligeant à intervenir. Enfant, j'appartenais encore à l'univers des dieux. Dans la glace de la grande chambre nagent les réminiscences. Déguisement, emporté par un livre d'enfant qui invitait à se fabriquer des tenues des 5 continents à partir d'étoffes et accessoires récupérés dans des malles. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je me souviens de la dernière phrase et de mon émerveillement quand j'y parvenais. Et nous voici en Océanie. Le tablier d'infirmière de ma panoplie sur la tête, censé figurer une chevelure blonde, je suis Eliane, la doublesse. Désolée, je ne me conçois pas un double masculin que je me suis inventé. Elle est tout ce que je ne suis pas, blonde, mince, audacieuse. Lui succédera quand je commencerai à écrire un vrai livre, le personnage de Marilyn, envoyé en camp de concentration, qui s'éteindra de lui-même quand j'atteindrai l'âge de mon héroïne, 14 ans. Cet endroit de moi interdit, et je dois bien fermer la porte avant d'oser l'explorer, qui semble saigner, qui sent mauvais et qui fait plaisir. Je ne peux le voir que dans cet espace qui me reflète, écartelé. J'ai enfin obtenu que ma mère ne me lave plus, renversée sur une alaise en plastique comme cela s'est fait pendant des années, durant lesquelles je n'avais de cesse d'échapper à mon corps. Maintenant, il est pour moi seul, ou à partager avec qui me plaît. Fessée, échanger avec Faustine, mon amie de 6e, l'oreille aux aguets, pendant que ma mère et ma grand-mère jouent aux cartes dans la salle à manger. La cuisine et ses abords étaient parmi mes lieux préférés. J'aimais particulièrement les petits déjeuners de vacances. L'un après l'autre, ou plutôt l'une, car mon père était parti depuis longtemps mener sa propre vie jusqu'au déjeuner, arrivait et, dans les meilleurs cas, décidait d'y rester pour bavarder. Alors, l'air se gonflait à nouveau d'histoires et de rires. Il fallait rajouter des sièges, car il y avait seulement 2 chaises et 2 tabourets, dont un cassé. Nous étions encore en tenue de nuit, nos esprits pas encore domestiqués par les nécessités du jour, à commencer par celle de nous déchirer pour consolider chacune des positions. Aujourd'hui, je suis seule. Je n'ai pas fondé de famille nombreuse, trop occupée à essayer d'exister ailleurs que dans la mienne, et autrement que sur le mode de la sidération. Ma grand-mère était partie la première. J'avais aperçu la grande voiture noire, prête à s'ébranler pour Marseille, où se trouvait alors le crématorium. Tout récemment, ce fut mon père, dont on me raconta qu'il avait été emporté par une infection pulmonaire après son admission à l'hôpital. Enfin, ma mère fut accueillie à la résidence Azurella. Pourtant, chaque matin, ils étaient là, dans les allumettes posées à côté de la cuisinière, même celles qui ont déjà servi, dans la chaise en bois blanc, bien malmenée ces dernières années, car mon père peinait à se lever et à s'asseoir, réparé à sa façon, avec des barres de bois brut louées aux pieds. Les bols empilés à l'endroit où ma mère les disposait, avant son accident. Craquement du parquet, glissement léger sur le lino, et leur présence longeait à nouveau les murs, battement d'ailes dans le cagibi central de l'immeuble qui ouvre directement sur le ciel, comme si les âmes s'étaient posées là, tout près de leur ancienne demeure, mais attentives à ne pas déranger les vivants. En hiver, la chaudière chuintante réveillait tous les bruits d'autrefois qui semblaient s'être réfugiés dans son conduit, passage infernal entre les mémoires du temps. Depuis les origines, elle soufflait comme le dragon gardien de ces lieux qui se trouva être, à l'occasion, gardien de ma virginité. Profitant de ce que ma mère et ma grand-mère étaient sorties, j'avais invité mon amoureux. Mais, au moment crucial, un soupir de l'énorme animal lui ôta définitivement ses moyens. Février. Je reviens, seul de nous trois, avec ma fille, Julie. Mais cela suffit-il à faire de moi ici une grande personne? C'est la première fois que je me trouve à l'appartement sans qu'une présence tutélaire m'y attende, même délocalisée à la résidence Azurella. Il fait gris et froid. Je ne trouve dans le quartier aucun des antiquaires dont j'avais noté l'adresse pour nous défaire de certains meubles et objets. Tout est différent, hostile. Comment moi, la petite dernière, ai-je la prétention de venir à bout de cette maison? Les voix se sont tues. La maison m'apparaît dans sa réalité brutale de bête morte qu'il va falloir équarrir et quitter. L'après-midi sieste comme d'habitude, à la renverse dans les années dépliées, heureusement fidèle au rendez-vous. Puis il faut s'y mettre. Je trie les effets personnels de mon père et de ma mère, préparant le plus utilitaire pour être donné, indiscrétion absolue, sacrilège. Je défais l'ordre qu'ils y avaient eux-mêmes mis pour faire apparaître, année et style mélangés, une classification de vestiaire. Rayon homme, rayon femme, je ne peux avancer qu'en faisant taire les moments enchantés. Par intermittence, je retrouve la tendresse au contact d'une ancienne robe de chambre de ma mère. La répulsion dont on ne sait si elle est faite de méfiance, de peur ou de dégoût, en défaisant à peine les costumes de mon père. Le rouleau compresseur des rangements nivelle dans sa progression tous les petits coins que chacun se gardait en marge de l'ordre officiel, menus objets oubliés dans une poche de veston, coffret enfermant en guise de secret la juxtaposition énigmatique d'une clé, d'un bâtonnet, d'une boucle d'oreille. Pour une fois, je renonce à séparer contenant et contenu en découvrant un portefeuille miniature de ma mère, débordant des photos de ses enfants et de sa mère, sorte d'oratoire privé. Je suis stupéfaite de voir se confirmer à chaque découverte la dualité de ma mère. Femme élégante, mythique et pauvresse, portant en guise de dessous, surtout les dernières années, des chiffonnailles, selon l'expression originale de ma grand-mère, qui lui fut ensuite appliquée par sa fille à propos de ses manies de vieille femme. Institutrice, aux préparations impeccables, et souillon, capable d'écraser dans un sac à main billets de théâtre, bonbons fondus, d'enchevêtrer de façon incroyable des écheveaux de fil dans une boîte à ouvrage. Surprise encore de constater l'absence totale d'objets personnels et de souvenirs familiaux du côté de mon père dont l'union avec ma mère semble s'être faite sur le mode matrilocal. Je jette sous le coup de la colère des photos de Jacques et Bernadette Chirac, jeunes et beaux, accompagnés d'un courrier électoral. Prise de remords à l'idée de le priver de sa famille rêvée, j'en glisserai une plus récente dans sa malle. Je repars en laissant les parents compressés à l'état de pile sagement rangés après expulsion des résidus toxiques. Disparus les pyjamas tachés et troués, les savates usagées et le désordre qui pourtant eux aussi les constituaient. La rue d'Abray, qui reliait l'enfer de l'école au havre du boulevard Joseph Garnier, avec son odeur basalmique de verveine, il y eut longtemps un laboratoire installé ici près du passage à niveau. Et ce ravissement à la hauteur de ce qui fut un cinéma. Nous y allions parfois avec la classe. J'y ai vu le ballon rouge et les aventures de Saturnin, le petit canard tout jaune, les notes et la discipline cédaient le pas à la bienveillance des veilles de fête. On prenait le chemin de la maison avant de retourner à l'école, puisqu'il n'était pas encore l'heure de la sortie. Rue Clément Roassal est ce mur vers lequel je reviens, tel le mur des lamentations. Je suis en souci, car j'ai imité la signature de ma mère au bas de ma punition. C'était déjà bien suffisant d'avoir fait 100 lignes. Je l'ai décalqué avec soin, mais voilà, mon tracé est gauche et lourd, tandis que son propre paraphe s'élance sur la page, toute barre dehors. Est-il possible que je mette ainsi mes traits dans les siens sans qu'on s'en aperçoive ? La rue Vernier, rue de mon école. Comment s'appelait cette institutrice, une grosse femme grise, les cheveux et la blouse, avec des lunettes, à force d'avoir zéro en mathématiques et comme appréciation peut mieux faire, je ne sais plus justement comment faire. Je finis par copier sur une voisine le jour de la composition horreur, on me surprend, ma mère me renie, comment moi, sa fille, ai-je pu ? L'affaire remonte jusqu'à mon père qui donne à entendre sa parole. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui taper dessus ? Pendant très longtemps, je n'eus plus au monde que ma grand-mère et le canari. La rue Trachel, pleine de mélancolie. Elle ressemble beaucoup à la rue Vernier. Même maison en pierre de taille assortie de ferronnerie, peu de commerce, mais ce n'est pas ma rue. Et je lui en veux de se faire passer pour l'autre. Avant le choix du boulevard Garnier, souvenir d'un appartement en étage, étroit et nu, donnant sur les voies ferrées. Gorgé d'une odeur lourde, il met ma mère mal à l'aise au point qu'elle opposera son veto. Sachant qu'il était habité jusqu'alors par des Asiatiques, elle décrète que c'est à cause de la cuisine, de ces gens-là, qu'il sent mauvais. Mon père décédé, ma mère à Azurella, nous osons, Paulette et moi, explorer et ranger ces continents obscurs que sont les meubles de la maison. Dans la grande chambre, parmi les papiers de famille, se succèdent tous les bulletins de notes des unes et des autres. Contraste avec mes carnets littéraires, débarrassés, fourrés sans aucun soin dans une pile d'archives de la grande bibliothèque, comme mes courriers d'Afrique, découverts bien après dans les rangements de ma mère entre catalogues et factures de la redoute. Le type de document fait loi plutôt que l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre nous. Rangement de ministère. S'agit-il de celui des armées ou de l'éducation nationale ? Partout, sur les certificats de vaccination, mes carnets de correspondance, le signe de ma naissance, 1951. Il fut un temps où, au lieu d'évoquer une génération déclinante, ce nombre me posait comme la plus jeune de la classe. Le 5, au buste court et au ventre rond comme un tablier de petite fille. Le 1, reste d'enfance et d'indulgence qui venait s'ajouter, me distinguant, de celle de l'année 50. Aux formes déjà longilignes, plus délurées et sans génie particulier. Avril. Dès l'entrée, une voix a disparu. Plus de diables ricanant derrière la porte. Déjà parti, le porte-manteau des cousins, aux allures satanistes, vendu avant mon arrivée à un brocanteur. Le mur lisse et neutre. Les autres voix effrayées se sont retirées sur les hauteurs de l'empyrée, laissant place à la réalité plate, sans image, relevant de mesures gestionnaires. Disposer les habits des parents dans des cartons comme des bagages de clochard. Parfois un entrain me prend, comme si ma sœur, ma fille et moi préparions un énième déménagement de la famille. Mais cette fois, ils ne seront pas du voyage. Nous avons attendu jusqu'à ce jour pour donner ceux de mon père, comme si sa présence devait être maintenue en ces lieux, aux côtés de celle de ma mère, pour éviter que cette maison ne sombre dans une folie de femme. Au moins, leurs convois partiront-ils ensemble, pour n'être séparés qu'à l'arrivée, comme dans les camps. les meubles en attente, portes béantes, l'esprit d'autrefois chassé par le souffle du présent. Le dernier jour, ma sœur et moi allons faire mettre à notre nom la location des différents appartements de notre père au cabinet Parc Impérial, le gestionnaire historique. Nos talons résonnent sur le boulevard Gambetta, tant de fois descendu avec elle vers la mer. À chaque fois, il y avait en moi ce soulèvement, comme s'il allait m'arriver quelque chose là-bas. Aujourd'hui, il pleut à seaux. Le boulevard Gambetta, frontière entre le pays de notre ancienne vie, au 91, immeuble de rapport aux allures de caserne, note en bas de page. Je ne croyais pas si bien dire. J'ai appris récemment que cet immeuble, comme plusieurs autres aujourd'hui disparus, logeait les officiers du tsar ainsi que leurs chevaux à l'intérieur du grand domaine du parc impérial. L'illustre monarque avait en effet, comme une grande partie de l'aristocratie, sa résidence d'hiver à Nice. Reprise du texte. Le boulevard Gambetta, frontière entre le pays de notre ancienne vie, au 91, immeuble de rapport aux allures de caserne, et le 29, boulevard Joseph Garnier, où est sise la Villa Belle Aria. De rapatriés à l'étroit, nos affaires au garde-meuble, nous étions devenus des bourgeois. Mais il y a toujours le jardin Alsace-Lorraine, où l'on m'emmenait les longs après-midi d'été. La guérite du marchand de glace, à l'orée du pont des chemins de fer, son vendeur yéyé dernier cri avec sa banane si bien moulée, ses clients copains autour aux allures de mauvais garçons savamment travaillés. Nous passions avec ma grand-mère que je sentais se raidir, l'air vaguement réprobateur. Pour finir, portant haut l'aigrette de son chapeau, elle me prenait par la main pour traverser cette zone dangereuse. À partir de la rue de la Buffa, se bousculent les boutiques de bouées et articles de plage, de photographes, de cartes postales, les odeurs salées et huilées des produits, des baigneurs déjà de retour, des pizzas cuisinées en plein air, au fond ce bleu qui monte haut jusqu'à la roue des palmiers, juste strié de petites ailes d'écume, étincelant comme une promesse de bonheur. Parfois, il y avait l'exotisme d'autres directions. La rue Alberti, rue de Madame Astéria, une amie de ma mère. Une dame entre deux âges, aux cheveux pâles et rares, encadrant un visage très doux, aux longues jambes ossues, prolongées par des pieds bosselés d'oignons. Nous passions l'après-midi. Elle semblait toujours contente de me voir et nous servait d'excellents gâteaux. Je me laissais porter par la mélodie de leur conversation, tissée de petits riens, tout en admirant le balcon fleuri et les meubles bien cirés du studio. Comment pouvait-on habiter en meublé? Tout était joli et miniature ici, comme dans une maison de poupée. Plus tard, j'habiterai un endroit comme celui-ci. Le soleil caressait tour à tour différentes régions de ce panorama. Ainsi, c'était cela une vie de grande personne. Dans cette vie-là non plus, il ne m'arriverait rien. Rien que cette contemplation tranquille, cet éternel retour des choses, désespérant et rassurant. Ma grand-mère était plus téméraire, et avec elle, nous poussions jusqu'à la place du Pin, proche du port. Transgression majeure, ce quartier étant réputé malfamé, en plus d'être éloigné. À notre retour, ma mère fronçait les sourcils et s'exclamait « Mon Dieu, vous êtes allé jusque là-bas !» Ce jour de carnaval, nous étions descendus en ville, avenue encore dite de la Victoire. Nous avions des masques, ceux-là même qui ont ensuite été conservés dans le placard de la grande chambre. Nous nous étions vraiment amusés, cela était si étonnant. dans notre univers de douleur, où il y avait toujours quelque chose ou quelqu'un, on ne savait plus qui, à pleurer. Je contribuais à cette douleur comme je le pouvais en leur donnant du souci. Et puis, j'étais une femme, faite pour perpétuer la douleur. Juin. Je suis accompagnée de Julie et de son amie Maryse, comme si je m'étais encordée pour rester attachée au présent et à Paris. Je trie le linge de la maison dans l'armoire de la grande chambre. Je découvre les draps brodés aux chiffres des aïeuls, ainsi réunis malgré leur rivalité. Aussi, les services de table ornés de chinoiseries rapportés par mon père de ses campagnes. Une fois de plus, je ne comprends pas pourquoi on retrouve les mêmes séries d'objets dans des armoires différentes. Paulette m'explique par téléphone qu'on avait peut-être mis de côté les exemplaires qui nous étaient destinés à nous qui sommes restés pour toujours des jeunes filles à marier. Au moment du café, si je prends telle tasse, rescapée d'un service dont il ne restait que deux pièces, juste assez pour ma sœur et moi lors de nos séjours, je me retrouve emportée dans les journées encore proches où il fallait être prête à 4 heures pour visiter ma mère à la résidence Azurella. Échappée belle en direction d'Entrevaux, ma mère n'est plus là pour dissuader ma fille de prendre le train d'Épinay en assurant qu'il va tomber dans un ravin. Nous sommes coincés à Puget-Théniers et je retrouve mes réflexes d'autostoppeuse. Mais il me faut désormais agir par procuration. La beauté blonde de Maryse et les charmes créoles de Julie auront raison d'une sorte d'aventurier mal rasé que j'aurais aimé rencontrer quelques années plus tôt, dont le 4-4 brinque-ballant des outils de toutes sortes nous conduit aux portes de la citadelle. Nous allions, après la sieste, retrouver cet avatar pétrifié qui avait pris sa place, la revêtant en quelques jours du masque de sa propre mère. Pourtant c'était bien elle, réclamant à corps et à cri sa maison, du moins au début. Le doute n'était plus permis à l'entendre nous faire le compte-rendu de sa journée. Les petits pois étaient durs, comme des balles de mitraillette. Ou bien une nouvelle aide-soignante est arrivée, elle ressemble à un chameau. S'adressant à Julie, « Je sais, je suis devenue méchante. C'est comme si je n'avais emporté que la partie mauvaise, amère. Le reste, je l'ai laissé dans mon ancienne vie. » C'est vers cette ancienne vie qu'elle nous demandait de ramener les cadeaux qui lui étaient faits, les pommes de pin ramassées au cimetière dans lequel repose son mari. Retrouver en rentrant sa présence fraîche dans la maison de toujours et qui nous aime. Ce jour-là, elle est particulièrement effrayée car elle aperçoit une araignée avec des dents dans le rideau. Ma sœur Paulette, soucieuse de garder son calme, tente d'être pédagogue. « Mais enfin, maman, tu as été institutrice toute ta vie. Tu sais bien que les araignées n'ont pas de dents. » Ma mère, un instant songeuse, « C'est vrai ce que tu dis, mais tu vois celle-là, elle en a. » Certains dimanches, nous allions en voiture avec mon père dans l'arrière-pays. L'expédition était préparée depuis la veille, ma mère et ma grand-mère discutant âprement pour savoir si des œufs durs avaient plus de chances de se conserver que du rôti. On emportait en général les deux, chacune comptant bien sur l'épreuve de réalité pour lui donner raison. J'étais toujours assise à l'avant, la place de ma mère, la place du mort, au motif que j'étais malade quand on m'installait à l'arrière, ce qui était absolument vrai. Tout le monde était vert de peur, sauf mon père, occupé à vituperer les autres conducteurs, qui se mettaient, disait-il, sur son chemin, et qu'il semblait décidé à pourchasser jusque dans le précipice. Ma mère implorait « Oh, Paul !» ce qui avait pour effet de décupler son agacement. Enfin arrivé, il fallait se mettre d'accord sur l'endroit où s'arrêter, ce qui était rarement réalisé. L'un triomphait d'aise, tandis que l'autre affichait sa résignation, drapée dans la dignité du sacrifice qu'il venait de consentir. Quel que soit l'endroit, je sombrais dans les herbes hautes et les campanules, étourdi par la vivacité de l'air et les bourdonnements d'insectes. Les mots bourdonnaient eux aussi à mes oreilles, comme engendrés par l'instant, comme une fête entre moi et le monde. Le repas était quand même un peu plus détendu qu'à la maison, une partie du cérémonial ayant disparu. Rire, bien-être et histoire d'Algérie. Même Paulette, quand elle était de la partie, y allait de quelques bons mots. Mais, à peine étions-nous installés, que les guêpes nous disputaient le lieu, ou bien, à 3 heures de l'après-midi, mon père décrétait qu'il était temps de reprendre la route pour ne pas rencontrer trop de monde sur le chemin du retour. À 5 heures, nous étions revenus, et mon père assis devant un match télévisé. Pendant ce temps, les rangements se faisaient à la cuisine. C'était quand même une bonne journée, risquait ma mère. Ce Paul, il conduit trop vite, concluait ma grand-mère. Août. La maison nous a tendu les bras comme d'habitude, ignorante de ce qui va lui arriver, de ce que nous sommes venus lui faire. Tous ces derniers jours, depuis Paris, je me bats avec ces objets. Ils vont à nouveau s'animer, alors que j'essaie en vain de les coucher sur le papier pour faire un plan de déménagement correspondant au devis ou pour transférer dans les mots leur étincelle sacrée. Le grand corps déjà blessé de la maison va se réveiller et ahaner pour la dernière fois. Tant d'orage, comme si on était en colère contre nous. Au sortir de la gare, il y a toujours l'immeuble de la bien nommée Madame Delagarde. Ayant appris que son mari, censé assister à une réunion, était en galante compagnie avec des collègues dans un bar du centre-ville, elle se présenta, habillée et maquillée pour la circonstance, et demanda si elle pouvait être aussi de la fête. Scandale qui lui valut par la suite le respect, on ose espérer la fidélité, de l'intéressé. Dans l'immédiat, elle mit les rieurs de son côté, y compris l'homme volage, et ils revinrent tous deux à la maison, bras dessus, bras dessous. Ma mère me citait cet exploit de femme avec chaleur. Il est vrai que mon père ne lui avait pas fourni semblable occasion, mais peut-être cachait-il son jeu. Pendant tant d'années, les cages à chats empilées dans le bus, la remontée du boulevard Gambetta, le passage à niveau et sa petite gare toute rose, dernièrement transformée en bar à pizza. Et voilà que s'ouvraient les trottoirs et immeubles familiers, le marchand de meubles, et voilà qu'apparaissait sa façade ouvragée au-dessus des jardins. La maison. Un rideau retombe à la fenêtre, nous entrons, ses bras derrière la porte. Je range les effets personnels gardés des uns et des autres. Chacun a sa malle. J'ai choisi pour ma mère un modèle particulier, une grande malle en osier, comme un nid qui ne blessera pas ses affaires et rappellera sa douceur. Je dispose d'abord ses bijoux, les vrais jamais portés et les faux, ses affaires de toilette, effluves et préciosités de femme, aux côtés du fou et des bigoudis des dimanches, tout ce qui avait transformé l'armoire de la salle de bain en sanctuaire depuis qu'elle avait cessé de les utiliser. Sa perruque des dernières années tombe au fond comme une tête de décapité. Par-dessus, ses robes de jeunesse, même déchirées, lambeaux de mémoire et ses peignoirs des derniers jours. Enfin, après beaucoup d'hésitation, j'ajoute les chaussures neuves, mon cadeau du dernier Noël, avec lesquelles elle voulait quitter son lit. Puis, dans les cantines en bois de mon père sur lesquelles sont inscrites ses différentes affectations, prennent place ses propres effets, des affaires d'hommes, des vestiges de l'agence des musiciens. Note en bas de page. Les musiciens sont un quartier du centre-ville dont les rues portent des noms de musiciens. D'où la déconvenue d'artiste à la recherche d'un contrat, découvrant qu'il s'agissait d'une agence immobilière. Des affaires d'hommes, des vestiges de l'agence des musiciens, sa dernière activité civile, les médailles, les uniformes et couvertures militaires, et, oh ironie, mes propres souvenirs, en strates, des différentes époques, enfin rassemblés. Avec jubilation, je rétablis dans leurs habits et accessoires respectifs les deux poupées, l'une m'ayant été offerte comme cadeau de Noël, au temps bienheureux du boulevard Gambetta, l'autre ayant été achetée pour ma nièce. Ma mère ayant mis à sa disposition les deux poupées, tout avait été mélangé, et on m'avait soutenu que ma poupée était l'autre. Après un si long malaise, je suis soulagée de faire entrer, rééditant les preuves de Cendrillon, les petits pieds dans les chaussures qui leur vont exactement, et de rejoindre si loin dans ma mémoire mes jeux, ma poupée, partant au marché avec son sac à main, son cabas fabriqué par mes soins. Au-dessus, le moins volumineux, les quelques objets de ma grand-mère, échappés au grand débarras d'après sa mort, je me reproche de les mettre dans une pauvre valise cartonnée, d'époque, mais qui m'évoque un bagage de déporté. Pourtant, elle ne l'aurait pas dédaigné, elle, qui jeta à la figure de Paulette les tabliers neufs que celle-ci lui avait offerts. Je les garde en témoignage de sa dureté et de la détresse d'orpheline qu'elle recouvrait. Je garde aussi les ventouses, rangées dans une boîte à biscuits, chacune recélant dans son globe les jours de maladie douloureux et hilarant où l'un d'entre nous devait revêtir cette carapace de verre et rester ensuite la peau marquée de ronds rouges comme un tissu imprimé. Je garde ce que je nomme machine infernale, l'un des multiples gadgets achetés sur la foi d'une publicité pour faire travailler les muscles et par lequel elle faillit périr électrocutée. De part et d'autre de la pyramide veille le lit de camp plié de mon père et les béquilles de l'oncle Raymond jointes à son grand portrait. Je suis toujours très troublée en le regardant de me rencontrer ainsi dans le visage de quelqu'un que je n'ai jamais connu, arrêté par la mort à celui de mes 25 ans et dont je porte le nom. À part les cantines de mes sœurs que je projette de remonter à leur intention. Poupées, jeux et livres du temps où je n'étais pas encore, du temps où Gisèle était encore ma sœur, avant de devenir l'ancêtre d'une nouvelle dynastie auto-engendrée. S'agit-il de garder pour chacun quelques objets de mémoire, ou de lui préparer une valise pour l'au-delà, avec tout le nécessaire pour l'accompagner dans la mort? En définitive, chaque mal doit être une composition signifiante, cherchant à rendre compte de l'identité de son propriétaire. Je suis contente de moi. Tant de déménagements d'une maison à l'autre, d'un pays à un autre, d'une pièce à l'autre, avec les rangements hâtifs et les coups bas qui les accompagnaient, ont brouillé l'histoire et les identités. Combien de fois n'ai-je plus trouvé en revenant les affaires mise à une certaine place avant de partir, ou bien ai-je été contrainte de coexister dans la même armoire avec l'adolescence d'une de mes sœurs. Tout est en ordre. Ils sont tous morts. Mes sœurs, il est vrai, sont encore de ce monde. Sans doute ai-je tranché leur enfance parasite, depuis toujours intriquée à la mienne, les jeux passant de l'aînée à la cadette, sans que jamais cela ne soit dit. Et avec elle leur présence, mi-tutélaire, mi-mortifère, à l'endroit de la petite dernière. Les couvercles claqués, nous sommes désormais des individus d'égal à égal. J'achève de vider la grande bibliothèque. Tristesse d'en apercevoir le fond, elle qui contenait le monde et dont les volumes, photos, ouvrait tout grand sur les années de légende, sur l'Algérie. J'exhume le jeu du Tour de France, fabriqué par mes sœurs, à partir de coureurs en papier découpés dans le journal. Tous les grands des années 50 sont en piste. Geminiani, Darrigade, Anquetil. Non sans trouble, je jette les photos et albums de voyage faits par les parents en Alsace, sur les traces de ma grand-mère paternelle, aux Pays-Bas, au motif qu'il s'agissait là de souvenirs trop personnels qui devaient disparaître avec eux comme avait disparu leur vestiaire. Je conserve par contre les documents des séjours italiens faits en famille. Plus tard, je regretterai ce geste. Une fois de plus, leurs choix personnels, leur vie de couple auront eu la voiture poubelle en guise de convoi funéraire. Avaient-ils le droit d'être autre chose que mes parents? Je casse le carillon de ma mère que je venais de faire vérifier par l'horloger et que je pensais vendre. Elle y tenait beaucoup et l'avait choisi après avoir fait front contre une tentative de mon père pour installer dans la salle à manger une pendule années 60 qui jurait avec l'ensemble. Je le détestais. Objet ordinaire qui, grâce à quelques contorsions du bois, cherchait à se donner l'allure d'un objet de riche et témoignait du mauvais goût de ma mère qui a toujours préféré le mousseux au champagne, les fausses pierres aux vrais bijoux, les meubles plaqués aux antiquités. En même temps, j'avais un penchant pour cet anticonformisme. Surtout, il sonnait tous les quarts d'heure, tenant tout le monde en alerte, y compris la nuit. Raison pour laquelle elle m'autorisait à l'arrêter quand je venais, mais je sentais qu'elle était triste, comme si, à cause de moi, cessait de battre le cœur des journées. Je casse aussi l'orteil sur lequel il est tombé. N'y tenant plus et décidée à sortir victorieuse de ce combat, je répare ce qui peut l'être et le porte au secours populaire. Je ne suis pas fière en revenant. Pour faire passer la douleur, Paulette, versée en homéopathie, me prescrit de l'arnica. Un peu plus tard, elle me demande « Tu as pris ton arsenic ?» Des courriers arrivent toujours à destination de ma mère. Pour les administrations, elle existe encore et préservée dans les dédales de l'informatique, sa présence virtuelle plane au-dessus de nos têtes comme dans une peinture de Chagall. Irène, l'amie de faculté, appelle comme parfois l'été. Je lui apprends que ma mère est décédée. Elle n'a pas l'air autrement surprise. Le secret était bien gardé. Tout le monde le savait, sauf moi. Moi seule croyais que cette grande femme, altière et rieuse, sa présence envahissante et douce, était là pour toujours. Elle était le pilier du réel, même et surtout à travers ce combat acharné que je menais contre elle pour y accéder. Des collègues, des amis, m'avaient un jour annoncé « J'ai perdu ma mère ». Ils n'en semblaient pas affectés plus que cela. Dissimulaient-ils leur souffrance, comme il est de règle dans notre société? En tout cas, ils faisaient bien, car j'étais tout à fait incapable de l'imaginer. Ma mère? Il n'y en avait qu'une, et c'était elle. Dans ma famille, il faut dire que nous n'avions jamais rien fait comme tout le monde. Les seuls dans l'immeuble à venir d'Algérie, à avoir cet accent, à vivre avec la grand-mère à la maison. J'étais seule dans la classe à avoir des parents retraités et à être attendue à la sortie, à ne pas aller faire les courses. Eh bien, chez nous, on ne mourait pas, voilà. Passe encore pour ma grand-mère. On sait ce que c'est, les grand-mères. Elles sont déjà vieilles. Passe encore pour mon père. Il n'était pas vraiment de la maison. Mais pas elle. Le temps pouvait la réduire, comme si on la voyait désormais d'un peu plus loin, mais non point l'effacer. J'ai rejoint la cohorte des gens ordinaires, de ceux qui ont perdu leur mère. Je me découvre en train d'en parler, comme eux, depuis une autre vie, capable d'en informer autrui avec la même effroyable banalité. Ma mère au téléphone, au retour de chez les cousins. On m'a assise entre une colonne et un curé, je me suis ennuyée tout l'après-midi. Je l'appelle d'Afrique, j'attends des invités et rien ne va comme il faut. J'ai voulu leur faire découvrir la pizza, mais la pâte reste obstinément collée à la table sur laquelle j'ai entrepris de l'étaler. Il fallait donc mettre de la farine. Que diantre ne l'avait-elle écrit dans la recette qu'elle m'avait confiée au lieu de préciser « enfourner la pizza » ou bien « fermer le four » Moyennant ce moment de panique et d'engueulade intercontinentale, suivi par une facture colossale, le dîner fut sauvé. Mon père, dont j'avais décidé qu'il devait venir aussi au téléphone pour ne pas laisser tout le champ libre à ma mère, je suis sur la pente savonneuse. Ce sont les derniers mots que nous réussirons à échanger, avant d'être happés par les habitudes déjà prises, la maladie et le grand silence des malentendants. Les ouvrages commencés de ma mère, interrompus par l'oubli ou par son accident. Enfilés sur des aiguilles commençaient à naître, des petites brassières, des chaussons encore attachés à leur matrice de laine. Pour certains d'entre eux, je dois couper le fragile cordon ombilical afin de pouvoir les faire entrer dans sa malle, incapable que je suis de continuer le travail et de leur donner vie. Des mois plus tard, je me réveillerai la nuit, en sanglots, après un cauchemar terrible. Ces petits êtres s'étaient animés et me reprochaient de leur avoir ôté la vie qui leur restait, comme si encore un peu de son désir et de son amour continuait de les irriguer depuis la pelote sacrifiée. Pourquoi donc était-ce si important que les matériaux rejoignent la boîte à couture et ses ébauches de réalisation s'amalent? Avec ma manie de mettre de l'ordre, je suis capable de faire mourir les gens deux fois. J'ai exécuté ce geste avec colère. Les ouvrages en question étaient mélangés, les fils entrelacés, comme le contenu de plusieurs boîtes à couture que j'avais passé la journée à démêler, alors que nous n'étions plus qu'à quelques jours du déménagement. J'ai été saisie de haine contre celle qui m'imposait une fois encore une telle angoisse devant son chaos et une telle somme de travail. Quand donc apprendrai-je la vie? Pourquoi n'ai-je pas encore songé à ranger les poèmes de Baudelaire en mettant les mots par ordre alphabétique? Elle mélangeait tout, c'est vrai. Mais la vie est faite de mélange. À vouloir tout séparer, je ne crée que la mort. Elle était la vie. Moi, je ne sais qu'aligner des mots, et les mots se déploient sur la mort des choses. En fin d'après-midi, mon père dans son fauteuil, fenêtre ouverte sur le jardin, ses yeux écarquillés devant le vide, ne rencontrant désormais qu'une taie noire. Mais, sentant encore la douceur du soir, le parfum des feuilles, ma mère est assise auprès de lui. Elle lui dit les oiseaux, les chats qui viennent se battre ou s'accoupler. Le voisin d'en face qui s'époumonne en marcelle à la fenêtre. Il sourit. Longtemps mon père a été ce dos tourné vers le bureau, concentré sur des tâches sérieuses dont je ne savais rien. Plus tard, je découvris ces feuillets remplis d'une écriture calligraphiée de bénédictin, recensant les comptes des appartements de l'agence immobilière, puis une fois cette ère révolue, ses traitements médicaux et ses opérations. L'écriture, que j'avais toujours fait dériver de ma mère, de son goût pour le bon français et le beau langage, me viendrait-elle aussi de lui? Tu es dans la chambre. Tu es en train de te changer. Insolite, tu as laissé la porte ouverte. Tu es de dos et tout à coup je ne te reconnais pas. Ses cheveux d'argent au-dessus du peignoir bleu, c'est Paulette. Mais elle n'est pas là en ce moment et elle est quand même un peu plus grande. C'est bien toi. Je découvre la tresse soyeuse revenue de ton enfance que tu cachais depuis tant d'années sous une perruque imitant ta coiffure de femme mariée. Tu as des gestes extrêmement lents, comme les adeptes du Tai Chi Chuan, contrastant avec la vivacité qui te caractérise. Peu après, tu allais faire ton accident. Je ne pourrai plus te parler. Maman, désormais, s'adressera toujours à une autre. Appelle des objets que je n'aime pas, mais dont la présence m'a construite aux côtés des autres. Je pensais pouvoir m'en séparer, mais je ne sais plus. Une sorte de conspiration cherche à faire échapper les survivants au convoi de la mort prévu pour dans quelques jours. Se détache encore sur le mur de l'entrée l'ombre du porte-manteau. Il faisait partie des alluvions les plus récents laissées par l'histoire de la famille. Ce bois sombre, ces diableries en haut, cet aspect monumental ne me disaient rien qui vaille. Julie, en période gothique, aurait voulu le garder, mais il semblait qu'il n'y ait pas suffisamment de place dans l'appartement du 91 où je projette de rapatrier une partie de l'héritage. Il avait fallu en décrocher les chapeaux de mon père, rester là, malgré son décès, et bien après qu'il eût cessé de sortir, dans l'attente de la prochaine promenade, ou comme s'il venait de rentrer du bureau. Avec lui s'en est allé aussi le souvenir du chat Gaspard, qu'il avait marqué du sceau de sa virilité, suivi en cela par tous les autres chats venus en visite, attentif à perpétuer la tradition. Promis à la récupération, les fauteuils club épluchés par le temps et les félins successifs, l'un d'entre eux était la forteresse dans laquelle je m'installais au boulevard Gambetta avec ma tartine et le journal de Mickey à l'abri du monde. Cri de l'armoire à glissière, aux lignes lourdes et sévères, qui est tout ce que je n'aimais pas chez mon père. Celui-ci en tirait chaque matin ses vêtements parmi les costumes alignés sur les cintres au garde-à-vous. Elle a toujours été là, bordant les lits, pendant à la coiffeuse de ma mère. Il fut un temps où elle devait aussi servir à suspendre les vêtements de ma mère, puisque la belle armoire de leur nouvelle chambre ne comportait pas de penderie. Tout ceci avant que l'ordre du monde ne fût ébranlé quand la grande chambre devint celle de mon père. Jusqu'au bout, ma mère y conservera un territoire. Sacs et ouvrages oubliés, chocolat de Noël soustrait à ma convoitise hors les soirées de réveillon. Toujours manipulatrice, elle en sortait quelques-uns pour me les donner en cachette. Assortie, le bureau spartiate, qui irradie encore de la silhouette de mon père penché sur ses écritures administratives. La chaise et le fauteuil paillé, aux motifs sculptés, écœurants de mauvais goût, mais qui m'ouvrent des espaces de soleil et de rire, de vacances dans l'ancien appartement avec mes deux sœurs descendues de Paris. La chambre de Paulette, qui l'accueillait pour les vacances, mais qui fut aussi ma chambre d'adolescente, où je me suis embarquée pour la montagne et l'Asie avec Frison Roche, où je faisais grasse matinée avec le Steve McQueen d'Au nom de la loi, invité en cachette dans mon lit. En dernier, ma mère s'y était installée, repoussant simplement les strates des occupations précédentes au fond des meubles, persuadée comme elle l'était toujours que rien ne lui appartenait, qu'elle était juste de passage. C'est là qu'elle eut l'accident qui mit fin à son séjour dans l'appartement. Mon père serait revenu la nuit et lui aurait arraché son collier d'alarme, elle se serait battue avec lui pour le récupérer et serait ainsi tombée du lit. On la retrouva le lendemain, à demi enroulée dans le tapis. Jeune fille, j'aurais voulu évacuer ce mobilier de facture quelconque et mal assorti pour avoir une chambre à mon style. Cela ne s'est pas fait. Aujourd'hui, je n'en veux plus d'autre. Jeune fille, j'aurais voulu évacuer ce mobilier de facture quelconque et mal assorti pour avoir une chambre à mon style. Cela ne s'est pas fait. Aujourd'hui, je n'en veux plus d'autre. La table, qui pour moi en fait partie, mais qui en fait était dans la chambre de ma grand-mère au boulevard Gambetta, aussi quelconque que le reste, avec ses pieds vaguement contournés. Sorte de meuble 18e du pauvre. Mais c'est sur elle que je travaillais, tremplin devant la fenêtre, sur elle que je m'élançais aux commandes de mes rêves et de mes écrits. C'est accoudé à elle que je regardais le soir engloutir le jardin, préfiguration de toutes les pertes futures, et les lierres des haies dans la pluie de novembre, comme des grappes de cœurs coupés. Ma petite bibliothèque, mon premier choix de meubles, tant aimé, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'on faisait la même partout. Elle abrita néanmoins, depuis mon éloignement, mes livres et documents scolaires des années lycées, mes morceaux de bravoure en matière de dissertation et d'essais littéraires. La penderie, dans l'ex-chambre de ma grand-mère, en bois brut, est fermée par un rideau d'un mauvais jaune qui abrite encore son sac et son parapluie, sa valise et la béquille, et le portrait de l'oncle Raymond. Dans l'appartement de Batna, où elle existait déjà, elle recouvrait aussi les bottes de l'oncle, dont le seul bout dépassait, causant des frayeurs à Paulette, enfant, qui dormait dans la même chambre. N'était-ce pas elle, déjà, dans l'appartement de Constantine, qui se dressait à côté de mon berceau, posé là pendant le ménage? Je vois encore les fleurs bleues du rideau d'alors, retrouvées depuis en plus petit dans une malle sur des chutes de tissu. Mon premier souvenir. Le lit d'enfant de Julie, heureusement promis à Grâce, notre bonne fée, qui réjouit les dernières années des parents dans l'appartement et continue depuis leur départ à en prendre soin. Lit acheté par ma mère, inévitablement mal commode et mal assorti au reste de la pièce, mais dont la présence signait mon accession à la dignité de femme. Lit des histoires du soir, la petite sirène, reprise de mes livres d'enfant. Nous étions là côte à côte, assises sur le bastingage avec nos queues de poisson. Lit de tous ces moments qui ne sont pas encore tout à fait du passé, mais qui se bousculent au bord du présent. Les meubles dormants de la petite pièce, bien improprement appelée living, puisque personne ne s'y tenait jamais. Les volets et la porte étaient toujours fermés, rendant encore plus sombre le vert des tissus. C'est là que, dans cette atmosphère de mangrove, pousse sa petite vie ténue la gabonaise, une plante ramenée de là-bas que j'emporterai en dernier, comme l'âme de la maison. Y dormait de temps en temps un visiteur, ou bien l'un d'entre nous, exclu de son lieu. Paulette, aux vacances, quand jeune fille j'eus aménagé dans la chambre qui portait son nom, ma mère, quand elle déserta la chambre conjugale, j'y ai passé l'été suivant le mariage de ma sœur Gisèle, puisqu'on avait installé le couple chez Paulette, où il y avait un grand lit, rongeant mon frein, suite à la trahison de celle avec qui auparavant, en cette saison, je parlais le soir sur la terrasse, me faisant expliquer les secrets de l'univers sous les étoiles. À la même époque, j'oscillais entre l'aventure mystique, inaugurée par une anorexie, et la lecture assidue du bal des maudits. Je n'aimais pas la ligne molle des cosy, dont le couvre-lit sentait le renfermé, mais leurs étagères pleines de livres et d'objets exotiques, ramenés par mon père d'Indochine, inspirèrent les rêveries agitées de la sieste que je faisais là les dernières années où on me l'imposa. Je me souviens d'avoir conduit un char romain forte de l'élasticité du dunlopilo. Les autres objets n'avaient pas retrouvé de nouvelle vie et restaient le salon du boulevard Gambetta enfermant dans la pénombre et les autres objets n'avaient pas retrouvé de nouvelle vie et restaient dans le salon du boulevard Gambetta enfermant la pénombre et l'absence des figures du passé. Les cosy ouvrent sur le paradis des vacances. Le ciel, alors vide et tout bleu dans la fenêtre, un immeuble a remplacé le parking qui maintenait la vue dégagée. Et tout bleu dans la fenêtre, juste borné à droite quand on se penche, par une cascade de liserons descendant de la colline. Rire. Paulette et Gisèle sont venues de Paris. Elles ont fait provision de caricatures croustillantes sur la promenade des Anglais et nous racontent les vieilles belles aux coiffures bouffantes qui ressemblent à des caniches et les chiens enrubannés qu'on pourrait prendre pour leur maîtresse. Chaises et tables pliantes se pressent derrière la porte, prêtes pour la plage. On entend vaguement sur la gauche la rumeur du boulevard Gambetta qui s'ouvre limpide, avec pas très loin la détonation d'un train qui passe sur le pont. De temps à autre, le glapissement d'un klaxon, le hoquet d'un scooter qui file et s'amenuise vers la mer. Sur le buffet trône la radio. Une dramatique en soirée. Deux femmes discutent du mariage et l'une d'entre elles raconte sa nuit de noces. Son mari l'appelle en lui disant « Viens que je te touche !» Cette phrase jeta la petite fille que j'étais dans un trouble infini et résonne en moi jusqu'à ce jour. La table, aujourd'hui pelée, suite au débordement de la Gabonaise, reste le théâtre d'une scène cruciale de mon enfance. Ma mère était couchée, malade. Il était convenu que ce soir-là, mon père m'aiderait pour les devoirs. Je tremblais déjà à l'idée de ce qui risquait d'arriver. Je ne sais plus, en fait, ce qui arriva. Mais nous nous retrouvâmes, mon père, abattant son poing sur la table en me demandant quels étaient les points cardinaux, tandis que dansaient dans ma tête des points et des cardinaux. J'étais statufiée. Ma grand-mère et ma mère, en chemise de nuit, accoururent, prêtes à éviter le pire. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à lire les cartes routières. Enfant, je croyais que ma grand-mère nous avait engendrés tous, comme la chatte de la maison, à la tête d'une lignée de sosies, tous noirs et blancs, tous différents. Mon hostilité envers mon père redoubla quand j'appris qu'il venait d'ailleurs, comme si j'avais deviné depuis toujours qu'il était bien cela, un étranger. J'habite encore la chambre de mes parents. Je suis en train de rêvasser, derrière le fauteuil, qui semble garder mon placard à jouets. Mon père entre et se change. Avec discrétion. Mais j'ai le temps d'apercevoir une excroissance entre ses jambes. Je suis terrifiée. Quelques jours plus tard, j'en parlerai à ma mère. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Comment il fait pour s'asseoir? Réponse de ma mère, l'air navré. Tous les hommes sont comme ça. La veille. Départ des objets que je ne garde pas. Action. Surtout ne rien oublier. Les sentiments seront pour plus tard. Emmaüs, contrairement à leurs homologues parisiens, sont adorables. Ils prennent, montent et démontent avec beaucoup de délicatesse, en particulier l'armoire à glissière, que je laisse partir dans un état de déchirement résigné comme le fermier qui a vendu sa dernière vache. Ils dépendent les rideaux jaunes et les emportent, encore rayonnants de leur lumière d'éternel automne, comme les officiants d'un culte secret. Au moins, ces objets auront-ils une seconde vie. Les forts du débarras sont sympathiques au possible, eux aussi, et efficaces. On n'a pas le temps de voir disparaître les choses, tout cela va trop vite. Je réussis à sauver in extremis encore quelques plantes en les distribuant autour de moi. Je ne me console pas de voir au sommet de la pile de tissus préparée pour le rebut les dessus de lit matelassés qui étaient la tendresse de ma mère. Jumeaux, ils ont été usés et usagés tous les deux. En vain, je les avais descendus avec joie du grenier. Le satin qui les recouvre déchiré en plusieurs endroits, ils n'auraient plus été que la caricature d'eux-mêmes. Mais c'est moi qui les ai condamnés. Place nette. Soulagement. De ne plus avoir à faire ce qui vient d'être fait. Tout ce qui reste maintenant va être sauvé. Plus tard, je rêverai, pendant des nuits, du salon doré qui avait remplacé la chambre de ma grand-mère. Les fauteuils veloutés et la banquette assortie sur laquelle je me laissais aller à la sieste en arrivant, dégringolant du même coup en enfilade les années toujours présentes, comme une litière invisible, tandis que ruisselait dans la fenêtre l'eucalyptus couronné de lumière. Peu à peu réduits à leur squelette de fer, ils brûlent pour l'éternité dans une décharge. Emporter les matelas avec les souvenirs de mariage. C'est seulement hier que j'ai découvert la détresse de certains d'entre eux, dissimulés par les lits faits, crevés ou bien souillés, mon matelas d'enfant éventré, comme un âne mort. Béance, je pleure les objets abîmés que je me suis laissé convaincre de jeter. C'est eux que j'allais voir en premier. Couvercle tordu et noirci qui me rendait aussitôt ma grand-mère, faisant chauffer mon petit plat ou bien ses restants, rallumant les brûleurs avec des allumettes encore bonnes. Cuvettes ébréchées à l'émail couleur de ciel comme on en faisait autrefois. Seaux aux émanations saumâtres et pots de chambre issus des maladies magiques de mon enfance, durant lesquelles les femmes se réunissaient autour de mon lit. Ma grand-mère lisant à haute voix les histoires les plus sordides dans Détective, ou bien des moments où mes parents étaient encore à la maison, entrant dans le grand âge. Chaque objet, comme une encre jetée à travers le temps, touche un moment qu'il est seul à pouvoir ressusciter. Dans un sursaut, j'ai épargné le petit arrosoir bleu porté au secours populaire. Que garder? Jusqu'au bout, dispute. Paulette veut garder ce qui est neuf, utile ou beau. Je veux garder ce qui est vieux, usagé, aimé. En terminant l'inventaire de la maison, nous découvrons des ménagères neuves, du linge neuf, avec des affaires jumelles, des poêles et serviettes trouées en usage. Oubliez-la, hors champ par rapport à l'univers rétréci des dernières années? Parmi elles se trouve sans doute mon trousseau, dont on m'avait parlé sans me le montrer, attendant sans doute que je sois digne de cette révélation en tant que fiancée. Il y avait aussi cette idée, surtout du côté de ma mère, que ce qui est déjà là est bien assez bon pour nous. Mentalité de pauvre, gardée comme un blason dans cet immeuble de riche. Souffrance des générations qui ont connu la guerre, et de ma mère, habitée par l'intime conviction de son indignité foncière, pour une raison qu'elle me confia quelque temps seulement avant sa mort. Enfin, il y avait l'histoire. Ses poils sans fond, ses serviettes élimées comme des parchemins antiques portent la trace des multiples déménagements en Algérie et du grand voyage outre-mer vers le pays des vacances qu'il faudrait désormais habiter. Elles disent les mains, les corps, dont elles gardent encore l'empreinte. Le déménagement. Les objets arrachés à la symphonie dont ils participaient, soudain frappés par le temps. Je vois leurs rides, leurs blessures. Le piano s'ouvre en deux, apparemment rongé depuis longtemps par des vers. Carnage de meubles, dépecés par des mains étrangères, passés du statut de souvenir à celui de tas de planches. La penderie, que mon père avait fixée au mur, éclatée en morceaux, suite aux efforts pour l'en détacher. Comme une tornade, l'équipe mélange et emporte tout. Objets orphelins oubliés dans un coin que je suis obligée de montrer aux déménageurs, rallonge de la table du salon, petite lampe séparée du cosy avec qui elle avait ses habitudes. L'appartement déserté avec ses tapisseries passées, son linoléum écorché, la poussière accumulée derrière les meubles qui seuls désormais témoignent de nos années entre ces murs. Quelques ustensiles gardés pour faire le ménage et reboucher les trous nous disent que nous sommes encore un peu chez nous. Ils rejoindront le troupeau plus tard au garde-meubles. Je ne sais pas ce qui me prend. Juste avant le passage des déménageurs, je sors des affaires préparées au grenier une étagère fabriquée par mon père, que je dispose dans le couloir commun où se trouvent déjà divers objets appartenant aux voisins et auxquels je pourrai encore accéder grâce à eux. Il faut qu'il reste quelque chose de moi, me dis-je, et une raison de revenir. Je pourrai toujours raconter que je l'ai oublié. Le soir à l'hôtel dans la glace, mes cheveux ont blanchi, comme si je redescendais du mont Sinaï. On m'emporta un matin dans un drap blanc. J'avais ma rhinopharyngite attitrée. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler auparavant de déménagement. Ainsi quittai-je l'appartement du boulevard Gambetta, déchirant le voile de ces années, vacances ouvrant sur le bleu du ciel et la plage, retour d'école ponctué par les jappements du setter roux du garage, dont on m'avait dit qu'il parlait, qu'il demandait de mes nouvelles, et j'y croyais, dimanches après-midi et soirées autour de la radio, les tartines et le journal de Mickey, dans les bras du fauteuil de la chambre, le bonheur, ce voile dont j'étais tissée. Le lendemain, dédale de l'appartement vide où les portes communicantes, enfin rouvertes, laissent respirer l'espace et le regard. Les pièces nettoyées ont retrouvé leur parquet soyeux. Le voici en partie rendu à sa splendeur première, malgré la poussière encore accrochée aux corniches et les dégâts des eaux. Je n'arrive pas à être triste. Les émotions m'attendent à Paris. Je vais dire adieu à la terrasse, au jardin. Je retrouve là le fantôme de ma grand-mère, son œil pétillant de femme dure, rendue faussement douce par l'âge, en conversation avec celui de Madame Charpier, une de ses amies, auquel elle racontait qu'on lui interdisait la salle de bain et qu'on lui faisait manger des restants. En réalité, elle se jetait sur les plats de la veille, en proclamant tantôt qu'elle préférait cela, tantôt qu'il fallait éviter le gaspillage. Et elle ramenait tous les soirs religieusement vers sa chambre la petite bouilloire remplie d'eau chaude, fière de marquer sa différence avec les générations suivantes, aux mœurs dissolues, à qui il fallait une salle de bain. La villa d'en face, les arbres penchés, les herbes folles sont comme d'habitude. Ils ne savent pas que je vais partir. Je le leur dis, mais cela ne semble pas leur faire le moindre effet. Je rends le trousseau, sésame conservé depuis des années dans un tiroir de Paris, à Paulette, l'aînée, qui sera la dernière à quitter l'appartement et à qui il revient de les remettre au gérant. Force sera restée à la loi. Je referme, plus jamais, le cloc lourd des clés dans la serrure, le tremblement du battant qui se referme, si différent du hennissement de la porte du living, les bruits de pas lissés par le lino, tous ces bruits qui ont accompagné les départs, les retours, qui annonçaient son arrivée de mon père le soir, mettant fin au chuchotement des femmes. Il y a toujours le nom des parents sur la porte. Épilogue. Je suis assise au milieu des cartons de déménagement sur l'une des chaises en bois blanc à la table de la cuisine. Je prends mon petit déjeuner dans l'appartement du boulevard Gambetta. Par la fenêtre, on aperçoit le mont Chauve, notre Olympe familial. J'aime cette idée de boire ma tasse dans l'inconfort, pionnier d'un nouveau monde. Hier, en avançant à nouveau sur la galerie ouverte qui surplombe la cour, j'ai ressenti comme une démangeaison aux pieds et une transe de tout mon être, comme si les racines des années perdues me poussaient soudain et se ramifiaient à travers mon corps jusqu'au ciel. C'en était fini de la rupture avec moi-même et avec le monde. J'avais enfin de quoi m'en aller saisir le bonheur. Mais il a fallu et il faudra encore sans doute affronter la mort. Mort des coups donnés aux murs, portes, fenêtres par l'homme bafoué d'un couple belliqueux, nos anciens locataires. Mort infligée aux chairs déjà meurtries de la maison par un entrepreneur véreux et incompétent qui trouva le moyen, sous prétexte de rénovation, de perdre jusqu'à la grande étagère en bois très fort construite par mon père pour y ranger nos malles. Mort des meubles du boulevard Garnier, maltraités par le déménageur, de la grande armoire écartelée, faute des vis pour la monter, égarée dans l'opération. Mort du mari de ma grand-mère, que j'imaginais enfant avoir eu lieu dans la petite chambre qu'elle occupait alors. Après la perte de l'homme violent qu'elle adorait, ma grand-mère menaçait de se jeter par la fenêtre. Ma mère, qui s'accrochait à elle pour la retenir, reçut pour toute réponse « Laisse-moi, je n'ai plus personne au monde. » Mort des heures de tristesse vécues par mes parents dans cet appartement, transfiguré par l'enfant que j'étais. Il m'a fallu arpenter moi-même les lieux pour retrouver la gêne qui avait dû être la leur, à tourner ainsi les uns sur les autres, sans le gros de leurs effets, l'Algérie absentée pour toujours. Mort des fantômes qui réclament leur dû, le réveil à portée de Paris qui retarde dès qu'il est introduit dans cet appartement, les appareils qui tombent en panne les uns après les autres, le chauffe-eau au bord de l'explosion. Ai-je le droit de prétendre à la succession. Mort, désespoir de Paulette, qui aurait voulu elle aussi cet appartement, et à qui, d'ailleurs, ma mère envisageait de le léguer, après me l'avoir promis depuis ma maladie d'enfant lors du déménagement. Pour la première fois, mon arrogance a exigé que les engagements pris soient tenus. L'exorcisme a-t-il commencé avec Julie et ses amis qui campèrent dans le séjour quelques nuits hors ma présence en ces lieux, comme si les murs avaient reconnu l'héritière, comme si le temps avait cessé de se dérober et de nous entraîner à l'envers pour s'enrouler autour d'elle et aller cette fois de l'avant.